cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 7 avril 1987.
Mais je crois pas qu'il faut le faire maintenant. C'est bien de poser la question, parce que, évidemment, quand on parle du je et du moi, on est à la lisière du point de vue psychologique. Votre moi psychologique se comporte-t-il bien ce matin? Votre moi psychologique est-il de bonne humeur ce matin? Avez-vous un sentiment du moi psychologique parfait? Êtes-vous bien en sécurité? Avez-vous sentiment d'autonomie? Vous tâtez le pouls de temps en temps comme ça. Au moins, quand on fait des exercices psychologiques. Et avez-vous bien ce sentiment d'être bien dans votre corps? Vous comprenez que si on restait uniquement à ce niveau-là, ça n'irait pas très loin. Et qu'au bout d'un certain temps, je suis persuadé, du reste, on régresserait. Parce qu'on ne progresse pas en faisant ça. On ne peut progresser que en se dépassant par le point de vue de la finalité. On ne peut pas progresser en restant dans l'immanence de notre conditionnement humain. Alors, quand de fait il y a des failles très fortes au plan psychologique, vous avez vu l'angoisse, l'aliénation, la culpabilité. Ceci se marque très fort. Évidemment, par définition, on s'éloigne énormément de la philosophie. Au fond, la psychologie moderne, elle est très liée à l'état maladif de l'homme. Je crois que la psychologie s'est développée beaucoup à cause de l'état maladif de l'homme. Quand on vivait un climat plus sain, plus moral, plus chrétien, il y avait beaucoup moins besoin de ce développement psychologique. La psychologie s'est développée à cause de ce repliement et à cause de ces blessures et à cause de ce fait que certains n'arrivent plus à découvrir la finalité propre de leur propre individualité. De sorte que c'est normal que lorsque je suis en présence de quelqu'un qui est névrosé, replié sur lui-même, la métaphysique est beaucoup plus loin. On enseigne la métaphysique à des hommes, j'allais presque dire normaux. On ne fera pas un cours de métaphysique à des névrosés, ça je crois pas. Que quand on fait un cours de métaphysique, il y ait des névrosés qui vous écoutent. Ça, c'est possible. On n'est pas à la... On n'est pas à la porte, les névrosés, en disant interdiction. Puisqu'on est tous névrosés, par un petit peu, prenez. On est tous malades, par un... Faut tous se dire ça, c'était vrai. On a tous des conséquences du péché originel, donc... Il y a toujours les possibilités de dégringolade, de tomber dans le fossé, de toujours... Prétendre que c'est impossible, non. On fait de la métaphysique pour réveiller en nous notre intelligence. Si notre intelligence était plus éveillée, avec un habitus de sagesse, il y aurait moins de névrose. Ça, j'en suis sûr. Il y aurait moins de névrose. Et je dis bien l'intelligence métaphysique. C'est-à-dire une intelligence réaliste. Parce que les mathématiques ne suppriment pas la névrose. Et même les sciences psychologiques ne la suppriment pas. Parce qu'elles ne donnent pas la finalité. La philosophie ne la donne pas non plus. C'est bien évident, la philosophie est au service de l'homme et c'est l'homme qui découvre sa finalité. Le philosophe peut dire... Et on peut très bien recevoir le dire du philosophe sans le vivre. C'est toujours la même chose. On peut recevoir le dire du philosophe. Vous recevez, bon, très bien, vous lisez Aristote, vous écoutez les cours de métaphysique. Et si vous ne faites pas l'effort, vous-même, de redécouvrir ce qu'est le jugement d'existence à travers vos expériences, de redécouvrir vous-même les inductions, la saisie des principes. Vous ne vivez pas de la philosophie. Votre intelligence reçoit. Elle reçoit. Et ce n'est pas la faute du professeur. C'est votre faute. Le professeur peut uniquement rappeler, donner l'intelligible. Mais il ne donne pas la vie de l'intelligence. Et ça, c'est nous. Chacun d'entre nous, nous avons trouvé le moyen de réveiller notre intelligence. Et une fois qu'elle est réveillée, d'essayer de l'orienter. Alors, c'est sûr, c'est pas commode. C'est pour ça que je vous dis toujours, il y a un moyen pour chacun d'entre nous d'entrer dans la philosophie. Si on est artiste, si on est une connaissance affective très développée, une connaissance prudentielle, une connaissance politique même, un sens très très grand de ce que représente le point de vue du vivant. Philosophie. Chacun, il y a une possibilité pour nous d'entrer dans le sillage métaphysique. Et ça, c'est chacun d'entre nous qui devons faire cet effort-là. On doit faire cet effort de faire que le dire philosophique pénètre au plus intime de nous-mêmes et nous éveille. Oui, et c'est là où c'est bon, justement, de poser quelquefois des questions, d'être en état de coopération, parce que déjà, poser une question, ça prouve que on a déjà un petit peu senti la chose. Il ne faut pas suivre le cours avec l'intention de poser des questions. Mais ce serait très mauvais, ça ne servirait à rien du tout. On suit le cours en coopérant dans le silence à cet éveil de l'intelligence. Et si cet éveil de l'intelligence, par le point de vue du cours, nous amène à dire « mais là, je ne vois pas », on pose la question. Parce que ça, c'est le problème de la philosophie. Vous voyez, c'est là la très grosse difficulté de la philosophie, c'est que c'est un langage analogique. On est toujours dans l'analogie. Et il faut comprendre, arriver à découvrir ce que c'est que cette vie de l'intelligence, qui est une vie non plus univoque. On est terriblement univoque. C'est en ce sens-là qu'on est collé à la logique. croyant que c'est la logique qui va nous rendre intelligents. Non. C'est pas la logique qui nous rend intelligents. La logique, elle est univoque. C'est le fonctionnement profond de l'intelligence par le point de vue de l'analogie. Et c'est pour ça que c'est pas toujours commode. Parce que l'analogie, vue de l'extérieur, vue d'un point de vue univoque, on dira « Ah, ils sont les métaxus !» Mais pas du tout, c'est parce que vous suivez d'une façon univoque. Et en suivant d'une façon univoque, vous n'entrez pas. Vous voyez, l'exemple classique, c'est de voir comment les voies d'accès à l'égard de Dieu, de saint Thomas, ont été comprises dans le thomisme. On n'a vu plus que le point de vue logique. Du point de vue logique, c'est illogique. On prend saint Thomas en flagrant délit d'illogisme. Alors on se dit, mais ça vaut rien du tout. C'est illogique. Et c'est pas la logique qui donne la valeur philosophique. C'est pas la logique qui donne la valeur philosophique. Parce que la logique ne fera jamais découvrir l'analogie. Et toute la pensée philosophique est analogique. Alors, c'est pour ça que c'est pas commode, parce que ça nous oblige d'entrer dans un autre monde. On entre dans un autre monde, point de vue philosophique. Le monde propre d'une philosophie qui, encore une fois, est particulière, puisque c'est la vie de l'intelligence, par rapport au réel. Mais c'est une vie de l'intelligence qui implique nécessairement ce caractère analogique de la connaissance. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus, parce que c'est la seule manière pour nous de progresser. Autrement, on ne progresse pas. On reste en face d'un mur très souvent, et on restera longuement en face de ce mur. Et alors, le malaise continuera en théologie en disant, mais quoi ? Parce que c'est vrai, ce n'est pas la logique qui nous fait entrer. La logique est nécessaire comme petit instrument. C'est nécessaire de savoir ce que c'est. Les prédicables, l'universel, la définition, c'est nécessaire. La connaissance philosophique est au-dessus. Nous avions donc repris pour entrer dans ce problème de la personne au niveau philosophique, la réflexion sur le « je suis » distinct du « moi ». Et je vous avais dit que ça, c'était très important de comprendre les sentiments du « moi » distincts de ce que représente cette affirmation « je suis ». Je ne continue pas, parce qu'on pourrait continuer longuement sur le « je suis », c'est très intéressant. C'est assez descriptif. Ça prépare une réflexion. Nous allons maintenant essayer, au plan philosophique, qu'est-ce qui est contenu dans cette affirmation « je suis » ou la personne humaine. Nous-mêmes, nous nous affirmons, nous nous présentons en disant « je suis ». Et au plan théologique, la personne de Jésus se présente à nous dans le « je suis ». Ça nous fait au terme, parce que c'est intéressant au point de vue théologique, d'essayer de comprendre la transposition au point de vue théologique. Le « je » implique donc une détermination fondamentale. Et une détermination qui ne peut pas se ramener uniquement à un aspect quantitatif des prédicaments. Ça que je crois très important à saisir. Mais dans le « ceci est », le « ceci » peut se ramener à la substance première des prédicaments. Tandis que dans le « je suis », on ne peut pas ramener cela à l'aspect substance première des prédicaments. Pourquoi ? parce que ceci est, nous l'avions vu, le ceci est indéterminé. C'est n'importe quoi. Dans le je, c'est pas du tout n'importe qui. Quand vous dites je, moi, c'est quelque chose de très précis. Et c'est pas du tout interchangeable. Tandis que le ceci est interchangeable. Et le ceci est en réalité relatif à est. Tandis que nous avions vu dans je suis, le je et suis, être, sont comme coextensibles. Il y a une espèce d'immanence entre les deux. Extrêmement curieuse. Il y a quelque chose qui dépasse, mais à l'intérieur d'une immanence. C'est ce qu'il y a, je crois, de très unique dans l'affirmation « je suis ». C'est que vous saisissez l'existence de l'intérieur. Et saisir l'existence de l'intérieur, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. Et en même temps, vous saisissez l'existence de l'intérieur, mais comme pouvant rejoindre l'autre, et donc comme ayant aussi cette capacité, une certaine transcendance. Parce que quand je dis je suis tué, là vous affirmez la transcendance par rapport à l'autre, puisque le je se distingue de toi, de l'autre. Il y a les deux choses dans le je suis, il y a la détermination et la séparation des autres. Et ça, je crois, dans le jeu est impliqué les deux. Donc est impliqué une immanence dans la détermination et une certaine transcendance, séparation des autres. Certaine transcendance, pas par rapport à moi-même, mais transcendance de l'autre par rapport à moi. Transcendance et séparation, si vous aimez mieux, si vous êtes mieux de dire séparation, séparation à l'égard des autres. Le je implique cette séparation, tandis que ceci non. Alors, qu'est-ce que ça correspond au plan métaphysique? Ça correspond bien à l'autonomie fondamentale de l'être, puisque le je suis, le je est dans l'être. C'est donc pas quelque chose de distinct de l'être, il y a identité entre les deux. Et cette détermination se réalise à l'intérieur de l'être. C'est donc l'autonomie fondamentale de l'être que j'affirme dans le je suis. Et cette autonomie fondamentale de l'être, je la vois très nettement parce que je pourrais reprendre à partir du je suis tous les prédicaments. Je suis ayant telle qualité, je suis ayant tel défaut, je suis ayant telle quantité, je suis ayant telle relation. Chaque fois que je dirais je suis, ce n'est pas ces relations. Je suis capable d'agir de telle manière. Je suis capable de bâtir de telle manière. Je dirais, le je suis n'est pas identique à cette action, n'est pas identique à cette passion. Et cependant, le je suis est sous-jacent à cette action, à cette passion, à ces qualités. Est-ce que Husserl l'a très bien saisi, ça? De façon phénoménologique, mais l'a très bien saisi. Cette permanence du jeu à travers toutes ces déterminations, toutes les déterminations qui me sont données dans les prédicaments, je peux toutes les prendre. Aucune n'est adéquate au je suis, et toutes sont apparentées au je suis, c'est-à-dire toutes sont liées au je suis. Le je suis sous-tend toutes ces déterminations, mais ne s'identifie à aucune de ces déterminations. Ça, je crois qu'en réfléchissant sur le je suis, je peux tout de suite le dire. Ce qui montre capital de comprendre ça. Parce que ça prouve que dans le je suis, je touche, j'atteins l'au-delà de toutes les déterminations qui me sont données dans les prédicaments. Toutes ces déterminations sont reliées au je suis. Donc ne sont pas étrangères au je suis. Aucune de ces déterminations ne sont étrangères. Mais cependant, aucune de ces déterminations n'est adéquate au je suis. Donc, il faut dépasser toutes ces déterminations pour atteindre la substance. La substance ayant été déjà découverte. Hein. Comprenez bien. Je ne commence pas ma métaphysique par le je suis. Et c'est pour ça, du reste, que je la commence pas. Parce que là, je serai devant un dépassement que je ne pourrais pas préciser. Puisque dans le je suis, c'est ça qui est tout à fait particulier. Je ne mets pas en seule lumière l'être. Je mets en lumière le je, l'être et le je. Vous voyez ? Et ça, c'est très important pour comprendre ça, parce qu'on aurait peut-être la petite tentation cartésienne, parce qu'on est toujours un peu lié à Descartes, et de dire, mais avant, pourquoi n'avez-vous pas commencé votre métaphysique par le je suis ? Ce serait tellement plus lumineux. Eh bien non, ce ne serait pas du tout lumineux. Et vous comprenez tout de suite pourquoi, j'espère. Je vous ai dit, dans le ceci est, je peux mettre en lumière le est. Ceci relative à elle. Tandis que dans le je suis, si vous pensez bien, vous ne pouvez pas dire ceci. Dans le je suis, vous ne vous perdez pas dans l'être. Ce ne serait plus je suis. Dans le je suis, il y a le double mouvement constant. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a une espèce d'adéquation curieuse entre l'exister et le jeu. Une immanence. Et c'est ça que j'appelle saisir l'intériorité de l'être. Il y a quelque chose de très particulier. Vous voyez, ce que Sartre, à la suite de Heidegger, a saisi, mais à leur manière, là je ne les suis pas, mais qu'est-ce que fait Sartre ? Il dit l'en soi et le pour soi. L'en soi, c'est l'être qui est un manche, comme le manche à balai. C'est l'être qui est totalement objectif et qui n'a aucun intérêt. C'est le ceci. Et le pour soi, ah, c'est le jeu, capable de tout ramener à lui. Alors, je mets ça simplement en parallèle pour montrer que, de fait, quelqu'un comme Heidegger, quelqu'un comme Sartre, ont bien saisi, et ce serait très intéressant à bien creuser, ont bien saisi qu'il y avait là deux manières d'aborder l'être. Une, purement objective, comme ils disent. L'autre, subjective. Quand on aborde l'être d'une façon purement objective, c'est le manche à balai. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt, parce que l'être ne peut pas, dans leur perspective, être abordé d'une façon purement objective. Il doit être abordé aussi d'une manière subjective, le pour soi. Et vous comprenez que c'est faux, parce que c'est introduire la dialectique, ça. L'être est au-delà de l'en-soi et du pour-soi. Je ne peux pas dire que l'être est objectif, je ne peux pas dire que l'être est subjectif. c'est le jeu. Alors, le jeu n'est pas un principe. Tandis dans le ceci est, étant donné la pauvreté du ceci, étant donné le caractère neutre du ceci, vous pouvez mettre tout l'accent sur être. Le jeu n'est jamais neutre. à ma propre expérience du je suis. Comprendre que ce je suis implique la substance. Une substance qui implique l'existé je suis. Donc une substance subsistante. Et une substance subsistante d'une manière singulière, individuelle. Subsistant dans le corps. Oui, procédé d'intégration, c'est très curieux. Comme procédé, c'est pas une induction. J'ai déjà affirmé, j'ai déjà découvert le principe propre de ce qui est selon la forme. on comprend le Dasein d'Heidegger. Pourquoi pour lui, c'est là où l'être est présent. Mais le danger, vous voyez, c'est de commencer par ça, alors que je finis par cela. Ma métaphysique se termine là. Elle se termine par la présence. Mais elle ne commence pas par la présence.
La substance est en moi.